Hoffmann, le vœu. Le jour de la Saint-Michel, à l'heure où l'on sonnait l'Angélus au couvent des Carmes, une élégante berline de voyage, attelée de 4 chevaux de poste, roulait avec un bruit de tonnerre à travers les rues de la petite ville de Liegnitz sur les frontières de la Pologne. Elle s'arrêta enfin devant la porte cochère de la maison du vieux bourgmestre allemand. Les enfants du bourgmestre mirent le nez à la fenêtre par curiosité, mais la maîtresse de la maison se leva de son siège et jeta avec humeur sur la table son attirail de couturière. « Maudite enseigne !» dit-elle à son vieux mari, qui sortait précipitamment de la chambre voisine. « Voilà encore des étrangers qui prennent notre logis pour une auberge. Mais pourquoi as-tu fait redorer la colombe de pierre qui est au-dessus de la porte ?» Le vieillard sourit finement et d'un air entendu, sans répondre un seul mot. En un moment, il eut jeté bas sa robe de chambre et mis son tablier de cérémonie, qui, brossé avec soin depuis qu'il l'avait endossé pour aller à l'église, était étendu sur le dossier d'une chaise. Avant que sa femme stupéfaite eût pu ouvrir la bouche pour l'interroger, il se tenait déjà à la portière de la voiture qu'avait ouverte un domestique. Le bourgmestre avait sous le bras son bonnet de velours et sa tête d'une blancheur argentée reluisait dans l'obscurité du crépuscule. Une dame âgée, en manteau gris de voyage, descendit de la voiture, suivie d'une femme plus jeune dont le visage était voilé. Celle-ci s'appuya sur le bras du bourgmestre et se traîna, plutôt qu'elle ne marcha, jusqu'à la maison. À peine fut-elle entrée dans la chambre, qu'elle retomba à moitié évanouie sur un fauteuil, qu'à un signe de son mari, la maîtresse du logis s'était empressée de lui avancer. « La pauvre enfant !» dit la dame âgée au bourgmestre d'une voix basse et mélancolique. « Il faut que je reste quelques instants auprès d'elle. » Aussitôt, aidée de la fille aînée du bourgmestre, elle ôta son manteau de voyage et sa robe de nonne, ainsi qu'une croix étincelante qu'elle portait sur la poitrine, la fit reconnaître pour l'abbesse d'un couvent de l'ordre de Cîteaux. Cependant, la dame voilée n'avait donné d'autre signe de vie qu'un gémissement faible et à peine sensible. Enfin, elle demanda un verre d'eau à la maîtresse de la maison. Celle-ci apporta toute espèce de gouttes fortifiantes et d'élixir dont elle loua les propriétés merveilleuses et conjura la dame de souffrir qu'on lui enlevât ce voile incommode et épais qui devait lui gêner la respiration. Mais toutes les fois qu'elle s'approcha, la dame la repoussa de la main en détournant la tête avec des signes de l'effroi. Toutes les instances de la femme du bourgmestre furent inutiles. La malade but 2 ou 3 gorgées de l'eau qu'elle avait demandée et dans laquelle l'hôtesse attentive avait jeté quelques gouttes d'un puissant cordial. Elle consentit également à respirer l'odeur d'un flacon de sel, mais ce fut toujours sous son voile et sans le lever aucunement. « Vous avez eu soin de tout préparer comme on la désirait ?» demanda l'abbesse au bourgmestre. « Oui, madame, répondit le vieillard, j'espère que notre sérénissime prince sera content de moi, ainsi que cette dame pour laquelle j'ai tout disposé de mon mieux. Laissez-moi donc encore quelques moments seul avec ma pauvre enfant, reprit l'abbesse. La famille quitta la chambre. On entendit l'abbesse parler à la dame avec ferveur et onction, et la dame prononça aussi quelques mots d'un ton qui remuait profondément le cœur. Sans précisément écouter, la maîtresse de la maison était restée à la porte de la chambre. Les dames parlaient italien, ce qui contribuait à rendre toute l'aventure plus mystérieuse et augmentait le serrement de cœur de la femme du bourgmestre. Celui-ci appela sa fille et sa femme, leur dit de préparer du vin et des rafraîchissements, mais il rentra lui-même dans la chambre. La dame voilée se tenait devant l'abbesse, la tête inclinée et les mains jointes, et paraissait plus tranquille. L'abbesse ne refusa pas de prendre un peu des rafraîchissements que l'hôtesse lui présenta, puis elle s'écria « Allons, il est temps !» La dame voilée tomba à genoux. L'abbesse étendit les mains sur sa tête et murmura des prières. Quand elles furent terminées, l'abbesse serra sa compagne dans ses bras, la pressa contre son cœur avec une violence qui prouvait l'excès de sa douleur, et des larmes abondantes roulèrent le long de ses joues. Puis, avec une dignité ferme et imposante, elle donna la bénédiction à la famille et, aidée du vieillard, monta précipitamment dans sa voiture à laquelle on avait mis des chevaux frais. Le postillon excita les chevaux qui hennissaient bruyamment et la voiture s'éloigna avec rapidité. Quand la maîtresse de la maison vit que la dame voilée, pour laquelle on avait descendu de la voiture deux coffres pesants, allait séjourner longtemps dans la maison, elle ne put se défendre d'un sentiment pénible d'inquiétude et de curiosité. Elle courut dans le vestibule au-devant de son mari et l'arrêta au passage au moment où il allait entrer dans la chambre. « Au nom du Christ !» murmura-t-elle d'une voix troublée, « mais quel hôte m'as-tu amené ? Car tu étais prévenu de tout et tu ne m'avais pas dit un mot. » « Je t'apprendrai tout ce que je sais moi-même, » répondit tranquillement le vieillard. « Ah, ah, ah !» poursuivit la femme avec un redoublement d'agitation. « Mais tu ne sais peut-être pas tout. Tu n'étais pas tout à l'heure dans la chambre. » Dès que Madame l'abbesse fut partie, sa compagne se trouva probablement trop gênée par son épais voile, et elle a ôté le grand crêpe noir qui lui tombait jusqu'aux pieds. Et je vis. Eh bien, que vis-tu ? Interrompit le vieillard. Sa femme, tremblante, promenait autour d'elle des regards effarés, comme si elle eût aperçu un spectre. Rien, reprit-elle. Je ne pus distinguer complètement les traits du visage sous le mince voile qui les couvrait encore, mais ils me semblèrent d'une couleur de cadavre. Oui, d'une affreuse couleur de cadavre. Mais, mon vieux, remarque aussi qu'il est évident qu'il n'est que trop évident, qu'il est aussi clair que le jour que la dame est enceinte. Elle va accoucher dans quelques semaines. Je le sais, femme, dit le bourgmestre d'un ton maussade, et de peur que tu ne tombes malade d'inquiétude et de curiosité, je vais t'éclaircir ce mystère en deux mots. Apprends donc que le prince Zapolski, notre puissant protecteur, m'écrivit il y a quelques semaines que l'abbesse du couvent de l'ordre de Cîteaux à Oppeln m'amènerait une dame qui me priait de recevoir dans ma maison sans bruit et en évitant avec soin les regards indiscrets. La dame, qui ne veut pas prendre d'autre nom que celui de Célestine, attendra chez moi sa prochaine délivrance et puis elle partira avec l'enfant qu'elle aura mis au monde. Si j'ajoute à cela que le prince m'a recommandé de la manière la plus pressante d'avoir pour cette dame les plus grandes attentions et que, pour première indemnité de mes déboursés et de mes peines, il m'a envoyé une grosse bourse pleine de ducats qu'il t'est facile de trouver et de guigner dans ma commode, tous tes scrupules seront sans doute levés. Nous devrons donc, dit l'hôtesse, prêter les mains aux péchés que commettent les grands personnages ? Avant que le vieillard eût eu le temps de lui répondre, sa fille sortit de l'appartement et leur cria que la dame, ayant besoin de repos, désirait être conduite dans la chambre qui lui était destinée. Le bourgmestre avait fait arranger aussi bien qu'il l'avait pu les deux petites chambres de l'étage supérieur, et il ne fut pas médiocrement embarrassé lorsque Célestine lui demanda si, outre ces deux pièces, Il n'en avait pas une dont la fenêtre donnait sur le derrière. Il lui répondit négativement, mais ajouta seulement, pour l'acquit de sa conscience, qu'à la vérité, il y avait encore une petite chambre avec une seule fenêtre sur le jardin, mais qu'à proprement parler, ce n'était pas une chambre, mais simplement une mauvaise mansarde, une misérable cellule à peine capable de contenir un lit, une table et une chaise. Célestine demanda sur le champ à voir cette chambre et déclara, dès qu'elle y fut entrée, que ce logement répondait à ses désirs et à ses besoins, qu'elle n'en souhaitait pas d'autre et qu'elle la changerait contre une plus grande dans le cas où il lui faudrait une garde malade. Le bourgmestre avait comparé cette étroite chambre à une cellule et dès le lendemain, la comparaison se trouvait exacte. Célestine avait suspendu au mur une image de Marie, et sur la vieille table de bois qui était au-dessous, elle avait placé un crucifix. Le lit consistait en un sac de paille, une couverture de laine, et excepté un escabeau de bois et une seconde petite table, Célestine refusa toute espèce de meuble. La maîtresse de la maison, réconciliée avec l'étrangère, par la compassion que lui causait la douleur profonde et déchirante peinte dans tout son maintien, que devoir lui rendre visite pour se conformer aux usages reçus. Mais l'étrangère la pria, avec les instances les plus attendrissantes, de ne pas troubler sa solitude, dans laquelle elle trouvait des consolations auprès de la Vierge et des saints. Tous les matins, dès la pointe du jour, Célestine se rendait à l'église des Carmes pour entendre la première messe. Elle semblait consacrer le reste du jour à des exercices de dévotion, car toutes les fois qu'on avait besoin d'entrer dans sa chambre, on la trouvait occupée à prier ou à lire des livres de piété. Elle refusait tout autre mets que des légumes, toute autre boisson que de l'eau. Le bourgmestre lui représenta que sa situation, sa manière d'être, la conservation de sa vie demandaient une meilleure nourriture. Mais ce ne fut qu'à force de supplications qu'il parvint à lui faire accepter un peu de bouillon et de vin. Les gens de la maison regardaient cette vie austère, claustrale, comme l'expiation d'une faute grave. Toutefois, il se sentait pénétré pour l'étrangère d'une commisération intérieure et d'une vénération profonde, que contribuait à accroître la noblesse de ses manières et la grâce entraînante de tous ses mouvements. Mais sa persistance à ne jamais lever son voile, l'impossibilité où l'on était de voir son visage, mêlait une sorte de terreur à ses sentiments pour la sainte étrangère. Personne ne l'approchait, si ce n'est le bourgmestre et la partie féminine de sa famille. Et ces personnes, qui n'étaient jamais sorties de leur petite ville, n'auraient pu reconnaître les traits d'une figure qu'elles n'avaient jamais vue et arriver à découvrir le mystère. Ainsi, à quoi bon ce voile ? L'imagination active des femmes inventa bientôt une histoire effroyable. Ainsi redoutable, disait-elle, la marque de la griffe du diable avait affreusement sillonné le visage de l'étrangère, et de là se voile épais. Le bourgmestre eut bien de la peine à réprimer les caquets et à empêcher qu'au moins devant la porte de sa maison on se permît des conjectures erronées sur le compte de l'étrangère dont on connaissait déjà l'installation chez lui. On avait aussi remarqué les promenades de Célestine au couvent des Carmélites, et bientôt on la nomma la dame noire du bourgmestre, qualification qui entraînait d'elle-même l'idée d'une apparition surnaturelle. Le hasard voulut qu'un jour que la fille du bourgmestre apportait à manger à Célestine dans sa chambre, un courant d'air souleva le voile. L'étrangère se détourna avec la rapidité de l'éclair pour se soustraire au regard de la jeune fille. Mais celle-ci devint pâle et se mit à trembler de tous ses membres. Elle n'avait point distingué de traits, mais comme sa mère, elle avait vu une face cadavéreuse et d'une blancheur de marbre, et dans deux cavités profondes des yeux qui lançaient des regards étranges. Le bourgmestre combattit avec raison ces idées de jeune fille, mais il n'était pas éloigné de les partager et souhaitait voir partir de chez lui celle qui venait y apporter le trouble malgré la piété dont elle faisait parade. Une nuit, le vieillard réveilla sa femme et lui dit que, depuis quelques minutes, il entendait des plaintes, des gémissements et des coups légers qui semblaient partir de la chambre de Célestine. La dame, saisie du pressentiment de ce que ce pouvait être, s'y rendit en toute hâte. Elle trouva Célestine habillée et enveloppée de son voile, étendue sur son lit presque sans connaissance, et elle se convainquit que sa délivrance était prochaine. Tous les préparatifs nécessaires avaient d'avance été faits depuis longtemps, et au bout de peu de temps, naquit un garçon charmant et bien constitué. Cet événement, bien qu'on s'y attendît, survint presque à l'improviste et eut pour effet d'anéantir la contrainte qui rendait désagréables les rapports de la famille avec l'étrangère. L'enfant était comme un médiateur ayant mission de réconcilier Célestine avec l'humanité. Son état lui interdisait les pratiques ascétiques et le besoin qu'elle avait du secours de ses semblables et de leurs soins assidus l'habitua par degrés à leur société. La maîtresse du logis, qui soignait la malade et lui préparait elle-même des bouillons nourrissants, oublia, en se livrant à ses fonctions domestiques, toute la défiance que lui avait inspirée d'abord l'énigmatique étrangère. Le bourgmestre, tout ragaillardi, jouait et riait avec l'enfant comme s'il eût été son petit-fils, et il s'était accoutumé, ainsi que le reste de sa famille, à voir Célestine voilée. Elle avait conservé son voile même au milieu des douleurs de son enfantement. La sage-femme avait été obligée de lui jurer qu'en cas même d'évanouissement ne lui ôterait pas ce voile, et que la sage-femme seule se chargerait de le lui enlever si l'imminence du danger l'exigeait absolument. Il était certain que la femme du bourgmestre avait vu Célestine sans son voile, mais ses réflexions se bornaient à dire « La pauvre jeune dame, il faut bien qu'elle se cache le visage. » Au bout de quelques jours, on vit reparaître le moine du couvent des Carmes qui avait baptisé l'enfant. Son entretien avec Célestine, que personne n'osa troubler, dura plus de 2 heures. On l'entendit parler avec chaleur et prier. Quand il fut parti, on trouva Célestine assise dans un fauteuil et l'enfant sur ses genoux. Il avait un scapulaire suspendu à ses petites épaules et portait un Agnus Dei sur la poitrine. Des semaines et des mois se passèrent sans qu'on vînt chercher Célestine et son enfant, comme le bourgmestre s'attendait et comme le prince Zabolski l'en avait prévenu. Elle eût pu être admise dans l'intimité de la famille si le voile fatal n'eût été un obstacle insurmontable. Le bourgmestre prit sur lui de s'en expliquer avec l'étrangère, mais elle répondit d'une voix sourde et solennelle « Non, je ne quitterai ce voile que pour un seul. » Le bourgmestre se tut et souhaita de nouveau que la voiture et la messe reparussent le plus tôt possible. Le printemps était de retour. La famille du bourgmestre revenait de la promenade et rapportait des bouquets de fleurs dont les plus beaux étaient destinés à la pieuse Célestine. Au moment où tous allaient entrer dans la maison, un cavalier parut tout à coup. Ah, son costume, on le reconnaissait pour un officier des chasseurs de la garde impériale française. Il demanda avec empressement le bourgmestre. C'est moi-même, dit le vieillard, et vous êtes à ma porte. Le cavalier sauta à bas de son cheval, qu'il attacha à un poteau, et se précipita dans la maison en criant d'une voix perçante. Elle est ici! Elle est ici! Il monta rapidement, on entendit une porte s'ouvrir et Célestine pousser un cri d'angoisse. Le bourgmestre, saisi d'effroi, accourut. L'étranger avait arraché l'enfant de son berceau, l'avait enveloppé de son manteau et le tenait de son bras gauche, tandis que du droit il repoussait Célestine, qui employait toutes ses forces pour arracher l'enfant au ravisseur. Dans cette lutte, l'officier arracha le voile, et l'on vit un visage pâle et inanimé, ombragé de boucles de cheveux noirs, et des yeux qui dardaient des éclairs du fond de leurs sombres orbites, pendant que des clameurs perçantes partaient de leurs lèvres immobiles et à demi ouvertes. Le bourgmestre s'aperçut que Célestine portait un masque blanc étroitement attaché à son visage dont il dessinait les contours. Femme horrible! S'écria l'officier, veux-tu que je partage ta folie? Mais il repoussa Célestine avec tant de force qu'elle tomba à terre. Elle embrassa ses genoux et parut en proie à une invincible douleur. Laisse-moi cet enfant, dit-elle d'un ton suppliant qui déchirait le cœur. Sur ton salut éternel, il t'est défendu de me le ravir. Au nom du Christ, au nom de la Sainte Vierge, laisse-moi cet enfant, laisse-moi cet enfant. Malgré ses accents lamentables, aucun muscle ne se remuait. Les lèvres de ce visage de mort demeuraient immobiles, de sorte que le vieillard, sa femme et tous ceux qui l'avaient suivi sentirent leur sang se glacer d'horreur dans leurs veines. Non! s'écria l'officier, comme emporté par son désespoir. Non, femme inhumaine et inexorable, tu peux m'arracher le cœur, mais dans ton délire funeste, tu ne dois pas perdre cet être que le ciel a destiné à apaiser les douleurs d'une blessure qui saigne encore. L'officier serra avec plus de force contre son sein l'enfant qui se mit à pleurer et à pousser des cris. Vengeance! Hurla Célestine d'une voix sourde. Vengeance du ciel sur toi, meurtrier! Laisse-moi, laisse-moi, éloigne-toi, apparition sortie de l'enfer! S'écria l'officier. Et par un mouvement convulsif, il repoussa du pied Célestine et voulut gagner la porte. Le bourgmestre lui barra le passage, mais l'officier tira rapidement un pistolet et en dirigea le canon vers le vieillard. Une balle dans la tête de celui qui songera à enlever du père son enfant. En disant ces mots, il descendit précipitamment l'escalier, s'élança sur son cheval sans abandonner l'enfant et partit au grand galop. L'hôtesse, le cœur serré, remonta pour soutenir et consoler Célestine, surmontant l'horreur que lui inspirait l'affreux masque de cadavre. Quel fut son étonnement en trouvant la pauvre mère au milieu de la chambre, immobile et muette comme une statue et les bras pendants. Ne pouvant supporter la vue du masque, la femme du bourgmestre remit à Célestine son voile qui était tombé sur le parquet. Celle-ci ne prononça pas un mot, ne fit pas un mouvement. Elle était réduite à l'état d'automate. En la voyant ainsi, l'hôtesse sentit un redoublement de peine et d'anxiété et pria Dieu avec ferveur de la délivrer de la funeste étrangère. Sa prière fut exaucée sur-le-champ, car la voiture qui avait amené Célestine s'arrêta devant la porte de la maison. L'abbesse entra, accompagnée du prince Zapolski, le protecteur du vieux bourgmestre. Quand celui-ci apprit ce qui venait de se passer, il dit avec beaucoup de calme et de douceur, « Oh, nous arrivons trop tard, mais il faut bien nous soumettre à la volonté de Dieu. » On descendit Célestine qui se laissa emporter et placer dans la voiture sans bouger, sans parler, sans donner le moindre signe de volonté et de pensée. Il sembla au vieillard et à toute la famille qu'il se réveillait d'un mauvais rêve, source de vives inquiétudes. Peu de temps après ce qui s'était passé chez le bourgmestre de Lillinitz, on enterra avec une solennité inaccoutumée une religieuse dans le couvent de l'ordre de Cîteaux à Hoppeln. Le bruit courut que cette sœur était la comtesse Herménégilde de Xerska, que l'on avait cru en Italie avec la sœur de son père, la princesse Zapolska. Dans la même époque, le comte Népomucène de Czerski, père d'Herménégilde, vint à Varsovie et ne se réservant qu'une petite propriété en Ukraine, il fit l'abandon de tout le reste de ses biens aux deux fils du prince Zapolski, ses neveux. On lui demanda de doter sa fille, mais pour toute réponse, il leva vers le ciel des yeux humides de larmes et dit d'une voix sourde « Oh, elle est dotée !» Il ne prit de mesure ni pour confirmer le bruit de la mort d'Herménégilde dans le couvent d'Oppeln, ni pour combattre les suppositions qu'on faisait sur le sort de sa fille, qui était représentée comme une victime conduite prématurément au tombeau par la souffrance. Plusieurs patriotes polonais, courbés mais non abattus par la chute de leur patrie, cherchèrent à faire entrer de nouveau le comte dans une association secrète qui se proposait la délivrance de la Pologne. Mais ils ne trouvèrent plus en lui cet homme ardent, amant enthousiaste de la liberté de la patrie, et dont le courage héroïque les avait soutenus jadis dans leurs nobles entreprises. C'était un vieillard sans énergie, déchiré de douleurs sauvages, étranger à toutes les choses de ce monde, et prêt à s'envenir dans une profonde solitude. Autrefois, à l'époque où le premier partage de la Pologne excita une insurrection sanglante, le château du comte Népomucène de Czerski avait été le théâtre des assemblées secrètes des patriotes. Là, dans des repas solennels, les conjurés s'enflammaient et s'excitaient à combattre pour leurs pays opprimés. Là, Herménégilde paraissait au milieu du cercle de ses héros, semblable à un ange descendu du ciel pour les bénir. Elle avait le caractère des femmes de sa nation. Elle prenait part à tout, même aux délibérations politiques. Examinait avec attention l'état des choses, et bien qu'elle n'eût pas encore 17 ans, elle combattait parfois la vie générale. Mais son opinion, dictée par la sagesse et par une pénétration extraordinaire, entraînait la majorité de l'Assemblée. Alors Herménégilde, après elle, personne n'était plus propre au conseil et à l'examen des questions que le comte Stanislas de Lamskaï, jeune homme de 20 ans, ardent et doué de grandes qualités. Il arrivait donc que, souvent, Herménégilde et Stanislas dirigeaient seuls la conversation dans les discussions difficiles. Seuls, ils examinaient, acceptaient, rejetaient et amendaient les propositions, et souvent le résultat de ces entretiens entre deux jeunes gens était adopté forcément par des vieillards habiles à traiter les affaires de l'État et dont les anciens conseils avaient prouvé la prudence et la capacité. Il était naturel de songer à une union entre ces deux jeunes gens, dont les talents surnaturels pouvaient être l'instrument du salut de la patrie. En outre, une alliance étroite entre leurs familles semblait en même temps demandée par le politique, parce qu'on les croyait animés l'une contre l'autre par des intérêts opposés, circonstance qui avait entraîné la chute de plusieurs familles polonaises. Herménégilde, pénétré de ses vues, accepta comme un présent de la patrie l'époux qu'on lui destinait. Les réunions patriotiques qui se tenaient au château de son père se terminèrent par les fiançailles solennelles d'Herménégilde et de Stanislas. On sait que les Polonais succombèrent et que la chute de Kosciuszko entraîna celle d'une entreprise basée sur une trop grande confiance des combattants en eux-mêmes, sur de fausses prévisions et sur une fidélité chevaleresque. Le comte Stanislas, auquel ses débuts dans la carrière militaire, sa jeunesse et sa force assignaient une place dans l'armée, se battit avec le courage d'un lion. Il échappa avec peine à une honteuse captivité et revint grièvement blessé. Seul encore Herménégilde l'attachait à la vie. Il croyait trouver dans ses bras des consolations et l'espérance qu'il avait perdue. Dès que ses blessures commencèrent à se cicatriser, il courut au château du comte Nepomucène, où il devait être de nouveau et plus douloureusement blessé. Herménégilde le reçut avec une hauteur presque dédaigneuse. « Ah, vois-je le héros qui voulait mourir pour sa patrie ?» s'écria-t-elle en allant à sa rencontre. Il semblait que, dans son fol enthousiasme, elle considéra son fiancé comme un paladin des temps héroïques dont l'épée pouvait à elle seule anéantir des armées. En vain il l'implora avec l'accent de l'amour le plus passionné. En vain il protesta qu'aucune puissance humaine n'était capable de lutter contre le torrent dévastateur qui s'était rué en mugissant sur la malheureuse Pologne. Tout fut inutile. Herménégilde, dont le cœur froid comme la mort ne pouvait s'échauffer qu'au milieu du tourbillon des affaires du monde, persista dans la résolution de n'accorder sa main au comte Stanislas que lorsque les étrangers seraient chassés de la terre natale. Le comte vit trop tard qu'Herménégilde ne l'aimait pas et fut forcé de s'avouer que la condition qu'on lui imposait, si toutefois elle n'était jamais remplie, ne le serait du moins que dans un temps bien éloigné. Il jura à sa bien-aimée de lui être fidèle jusqu'à la mort et la quitta pour aller prendre du service dans l'armée française qui combattait en Italie. On dit des femmes polonaises qu'elles ont un caractère fantasque qui leur est propre. Une sensibilité profonde, de la légèreté et de l'abandon, une abnégation stoïque, des passions brûlantes, une froideur glaciale, tout cela repose pêle-mêle dans leur âme et produit à la surface une étonnante instabilité. Les jeux de leur humeur capricieuse sont semblables à ceux d'un ruisseau remué dans sa profondeur, à la superficie duquel de nouvelles ondes montent sans cesse en murmurant. Herménégilde vit avec indifférence s'éloigner son fiancé. Mais quelques jours s'étaient à peine écoulés qu'elle se sentit saisie d'un désir inexprimable, comme on peut seul enfanter l'amour le plus ardent. L'orage de la guerre s'était apaisé. On avait proclamé une amnistie, on avait élargi les officiers polonais prisonniers. Plusieurs des frères d'armes de Stanislas arrivèrent au château. Ils s'entretinrent avec une profonde douleur du jour de leur défaite et de l'intrépidité que tous avaient déployée, mais surtout Stanislas. Au moment où la bataille semblait perdue, il avait ramené au feu les bataillons qui reculaient et était parvenu avec ses cavaliers à rompre les rangs ennemis. Le sort de la journée était douteux lorsqu'une balle l'avait atteint. Il était tombé, baigné dans son sang, répétant ces mots « Ô ma patrie, Herménégilde, Chaque mot de ce récit était un coup de poignard qui perçait le cœur d'Herménégilde. Non, disait-elle, je ne savais pas que je l'aimais ardemment depuis le moment où je l'ai vu pour la première fois. Mais quel démon a pu m'aveugler et m'égarer? Mais quel démon m'a fait croire qu'il était possible de vivre sans celui qui seul est ma vie? Je l'ai envoyé à la mort, il ne reviendra pas. C'est ainsi qu'Herménégilde exhalait les douleurs orageuses qui bouleversaient son âme. Sans sommeil, incapable de prendre le moindre repos, elle errait la nuit dans le parc, et comme si le vent eût pu porter ses paroles à son ami éloigné, elle s'écriait « Stanislas, Stanislas, reviens, c'est moi, c'est Herménégilde qui t'appelle, ne m'entends-tu pas, reviens, ou je vais mourir d'inquiétude, d'amour et de désespoir. » L'agitation d'Herménégilde menaçait de dégénérer en une véritable folie qui se manifestait parmi l'extravagance. Le comte Nepomucène, rempli de chagrin et d'anxiété par l'état de sa chère fille, crut que les secours de l'art médical lui seraient peut-être salutaires, et il réussit à trouver un docteur qui voulut bien passer quelque temps au château et prendre soin de la malade. Quelque sagement combinée que fût sa méthode, plutôt morale que physique, elle ne produisit aucun résultat. Et il devint douteux qu'on pût jamais parvenir à guérir Herménégilde, car après d'assez longs intervalles de tranquillité, elle retombait à l'improviste dans les plus étranges paroxysmes. Une aventure particulière donna une nouvelle tournure à la maladie d'Herménégilde. Elle avait une petite poupée habillée en hulan, à laquelle elle témoignait une vive tendresse et prodiguait les noms des plus doux comme s'il eût été son bien-aimé. Elle la jeta au feu de dépit, parce que, sur son invitation, cette poupée n'avait pas voulu chanter. « Ton voyage ne nous a pas été agréable. » Ton amitié nous était précieuse au pays. » Sur le point de retourner dans sa chambre après cette expédition, elle traversait le vestibule lorsqu'elle entendit un cliquetis et un bruit de pas. Elle regarda autour d'elle et aperçut un officier en grand uniforme de la garde impériale française qui portait le bras gauche en écharpe. « Stanislas, mon Stanislas !» cria-t-elle en s'élançant vers lui et tombant sans connaissance entre ses bras. L'officier, stupéfait, cloué à la terre par la surprise, eut de la peine à retenir, avec le seul bras dont il put se servir, Herménégilde, qui, grande et bien nourrie, était loin d'être un léger fardeau. Il la pressa contre son sein avec une force toujours croissante, et en sentant le cœur de la jeune fille battre près du sien, il dut s'avouer que c'était la plus délicieuse aventure qui lui fût jamais arrivée. Les minutes s'écoulaient rapidement. L'officier fut embrasé des feux du désir, dont les milliers d'étincelles électriques jaillissaient du corps charmant qu'il tenait entre ses bras, et il appuya ses lèvres brûlantes sur les douces lèvres d'Herménégilde. Ce fut ainsi que les trouva le comte Nepomucène qui sortait de sa chambre. En ce moment, Herménégilde reprit ses sens, embrassa l'officier avec ardeur et s'écria de nouveau dans son délire « Stanislas, mon bien-aimé, mon époux !» L'officier, le visage brillant, tremblant, perdant toute contenance, fit un pas en arrière et se déroba doucement à l'étreinte convulsive d'Herménégilde. C'est le plus doux moment de ma vie, balbutia-t-il timidement, mais je ne veux pas jouir d'un bonheur qu'une erreur seule me procure. Je ne suis pas Stanislas, hélas, je ne le suis pas. À ces mots, Herménégilde, épouvantée, bondit en arrière. Elle regarda l'officier d'un œil fixe et perçant, se convainquit qu'elle avait été trompée par l'étonnante ressemblance de l'officier avec son amant, et s'éloigna en gémissant. L'officier se fit connaître par le comte Xavier de Rabskay, cousin de Stanislas. Le comte Nepomucène ne pouvait à peine croire possible qu'en si peu de temps, celui qu'il avait vu enfant fût devenu un jeune homme grand et robuste. À la vérité, les fatigues de la guerre avaient donné un caractère mâle à son visage et à tout son extérieur. Le comte Xavier avait quitté sa patrie avec son cousin et son ami Stanislas, et comme lui avait pris du service dans l'armée française et fait la campagne d'Italie. À peine âgé de 18 ans alors, il s'était bientôt signalé et avait montré tant de courage que le général en chef l'avait nommé son aide de camp et qu'à 20 ans, il était parvenu au grade de colonel. Les blessures qu'il avait reçues exigeant quelque temps de repos, il était revenu dans son pays et un message de Stanislas, sa bien-aimée, l'avait amené au château du comte Nepomucène, où il avait été reçu comme l'eût été Stanislas lui-même. Le comte Nepomucène et le médecin firent d'inutiles efforts pour calmer Herménégilde. Elle résolut de ne pas quitter sa chambre tant que Xavier serait au château. Xavier était profondément affligé d'être condamné à ne plus revoir Herménégilde. Il lui écrivit qu'elle lui faisait expier bien rigoureusement une ressemblance malheureuse pour lui et dont il n'était pas coupable. Mais il ajouta que le malheur qui l'accablait depuis ce fatal moment atteignait non seulement lui, mais encore le bien-aimé Stanislas. En effet, lui, Xavier, était porteur d'un doux message d'amour, et il n'avait pas l'occasion de remettre à Remégie d'elle-même, comme il le devait, la lettre qui lui avait été confiée, et de lui communiquer de vive voix ce que Stanislas n'avait pas eu le temps d'écrire. La femme de chambre d'Herménégilde, que Xavier avait mise dans ses intérêts, se chargea de présenter ce billet dans un moment favorable, et les deux mots de Xavier firent ce que n'avaient pu faire le père et le médecin. Herménégilde consentit à le voir. Elle le reçut dans sa chambre, silencieuse et les yeux baissés. Xavier s'approcha d'un pas un peu incertain et prit place devant le sofa sur lequel elle était. Mais il s'inclina sur sa chaise et s'agenouilla plutôt qu'il ne s'assit devant Herménégilde. Dans cette attitude, il lui demanda pardon, dans les termes les plus touchants, du même ton que s'il se fût accusé d'un crime irrémissible. Il la pria de ne pas faire retomber sur sa tête la faute d'une erreur qui lui avait dévoilé la félicité de son ami. Ce n'était pas lui, c'était Stanislas qu'elle avait pressé sur son cœur dans les transports de joie du retour. Il lui remit la lettre et commença à parler de Stanislas, à dire avec quelle fidélité chevaleresque il pensait à sa dame dans les combats, avec quelle ardeur il aimait la liberté et la patrie. Le feu et la vivacité du récit de Xavier entraînèrent Herménégilde. Elle surmonta bientôt ses craintes, dirigea sur le jeune homme les regards enchanteurs de ses yeux célestes, de sorte que celui-ci, comme Calaf, ivre d'amour lorsque Turandot le regardait, put à peine continuer sa narration. Sans le savoir lui-même et préoccupé de la lutte qu'il soutenait contre une passion dont les flammes menaçaient de s'étendre, il se perdit dans une amphigourique description de bataille. Il parla de chars de cavalerie, de masses rompues, de batteries enlevées, et Herménégilde l'interrompit avec impatience. « Oh ! s'écria-t-elle, maudites soient ces scènes sanglantes dont l'enfer est l'auteur !» Mais dites-moi seulement qu'il m'aime, que Stanislas m'aime.